96.9. Sport.
Vous êtes prêts?
Le bureau des commissaires.
Avec Martin Leclerc.
Bonjour, mon cher Martin.
Salut, Martin.
Bon matin, les gars. Bon matin.
On vient ce matin?
Oh oui, en pleine forme.
C'est bien, good.
À quel prix souhaite-t-on garder les Coyotes en Arizona, Martin?
Écoute, à un fort prix. Si on regarde l'historique de l'organisation, c'est un faible mot de dire que cette organisation a été un boulet pour la Ligue nationale au cours des 15 dernières années, et même peut-être depuis leur arrivée dans la Ligue nationale.
Ça fait longtemps qu'on remplit leur coffre en fin de saison. Hein?
Tu sais, il y a eu une succession de problèmes. On en a parlé et reparlé parce qu'il y avait au Québec, ça soulevait un intérêt particulier parce qu'il y avait la situation, l'amphithéâtre qui se construisait, le nouvel amphithéâtre à Québec, et on se disait, bon, mais cette organisation-là pourrait facilement déménager à Québec, puis on pourrait, c'est une organisation qui serait accueillie à bras ouverts, puis qui aurait des supporters, puis...
Et disons-nous là, depuis qu'on a pris la décision de garder le club en Arizona, là, on regarde ça, puis ça aurait été difficile de faire pire à Québec, là.
Absolument.
Et ce que je reproche au discours qu'on tient, c'est lorsqu'on dit « Québec aurait pu difficilement faire pire que les Coyotes de l'Arizona », alors qu'on devrait dire « Québec aurait assurément fait mieux que les Coyotes de l'Arizona », surtout depuis la construction du centre Vidéotron.
Absolument. Et ça tient à une chose. Tu sais, la présence des Coyotes en Arizona, c'est un plan qui a été élaboré par Gary Bettman quand il est devenu président, commissaire de la Ligue nationale de hockey au début des années 90.
Donc, dès son arrivée, Gary Bettman a l'intention d'avoir des équipes dans les différents marchés de l'Amérique du Nord, en pensant exactement à l'Arizona. Attention, Gary Bettman arrive en février 1993. À la fin de la saison, les North Stars du Minnesota vont s'en aller à Dallas. Par la suite, c'est les trois transferts qui vont suivre. Les Nordiques de Québec, 1995, s'en vont au Colorado. Les Jets de Winnipeg, en 96, vont se diriger vers l'Arizona. Les Whalers d'Hartford, en 97, vont quitter pour un coin perdu qu'on maintenant se retrouve en Caroline. Et Bettman a certainement pas, en 2-3 ans, pensé à aller chercher ces marchés-là. Il faut être réaliste. Bettman, lorsqu'il arrive en 1993 et arrive comme commissaire de la Ligue nationale, il peut certainement avoir un plan, mais il n'est certainement pas intéressé à perdre le Minnesota. D'ailleurs, ils y sont retournés par la suite. Colorado, Québec, veut vendre. Les propriétaires des Nordiques à cette époque-là ont peur de perdre de l'argent. Les Jets de Winnipeg s'étaient décidés. On n'était pas capable de rentabiliser la concession. On devait trouver un acheteur. On a décidé de se diriger vers l'Arizona. Et les Whalers d'Hartford, malgré les promesses de M. Karmanos, a quand même décidé d'enlever l'équipe à Hartford et de l'envoyer dans un coin perdu, comme je le disais un peu plus tôt, en Caroline. Il faut arrêter que c'était le plan de Gary Bettman. Bettman ne veut pas de transfert. Il l'a toujours dit. Alors là, il fait des transferts par obligation. Pourquoi ne pas avoir gardé Winnipeg et pas avoir installé une équipe en Arizona? Si son plan, c'est celui-là, c'est certainement pas de prendre une équipe au Canada qui a des cotes d'écoute et qui est probablement un peu plus intéressante et de les envoyer en Arizona. C'est par obligation que Gary Bettman fait un transfert. Ce n'est jamais par une décision ou un plan d'affaires que Gary Bettman fait ça. Mais, encore une fois, la tendance est souvent de tourner les coins ronds lorsqu'on apporte pourquoi on est allé en Arizona et pourquoi on demeure surtout en Arizona. Mais ça, on va y revenir.
Son rêve à Gary Bettman depuis le début de son mandat, c'est de décrocher des contrats de télévision américains de la même taille que la NBA, que le baseball majeur, pas que la NFL, parce que c'est un autre niveau.
Mm-hmm.
Mais ça a toujours été la Ligue nationale le parent pauvre en matière de revenus télévisuels dans les grands sports nord-américains. Puis si tu veux un jour décrocher un gros contrat de télévision nationale, il faut que tu occupes le territoire au complet. Tu peux pas dire on est une ligue qui a des équipes juste dans le nord-est des États-Unis, puis vouloir un gros contrat de télévision nationale. Alors, ce que Gary Bettman a fait depuis qu'il est arrivé en poste, et regardez la façon dont la Ligue s'est déployée, des équipes en Californie, équipes en Arizona, équipes au Colorado, on a...
Encore ici, il faut remettre certaines choses en perspective. Lorsqu'on parle du plan de Gary Bettman d'avoir un gros contrat de télé et qu'on doit couvrir tous les marchés américains pour pouvoir toucher le pactole comme l'a fait la NBA, comme l'a fait le baseball majeur, et on parle de la NFL, mais on comprend que les montants ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention, encore une fois, parce que Gary Bettman, lorsqu'il se présente en 1993, et que là, on nous dit, ah, il a installé des clubs dans l'Ouest, c'est totalement faux. Quand Bettman arrive en 1993, les Sharks de San Jose sont là depuis 1991, on va accueillir en 92 Ottawa et Tampa Bay, la Floride et Anaheim en 1993, donc ce n'est pas Gary Bettman qui installe ces équipes-là dans l'Ouest. La première équipe sous l'égide de Gary Bettman, à part bien sûr les transferts, c'est Nashville en 1998, Atlanta, en 99, on comprend le succès. On retourne à Atlanta, un gros marché tellement important pour le contrat de télé. En 2000, on va entrer Columbus et Minnesota qui revient. On est encore pas mal au centre et dans le nord pour les équipes que Gary Bettman fait entrer. Le contrat de télé qu'on a négocié, malgré tous ces ajouts de la Ligue nationale, il a été négocié en 2011 et on a reçu des peanuts, 200 millions par année, alors que les autres circuits, comme la NBA, c'est 200 millions par année sur 10 ans, on parle de 2 milliards. La NBA, c'est 29 milliards le contrat de télé pour 8 ans. On est très, très loin de là. Le prochain contrat de télé va se négocier en 2021. Et là, on nous dit que c'est pour ça qu'on reste en Arizona, c'est pour ça qu'on reste en Floride, c'est pour ça qu'on est en Caroline, alors que les cotes d'écoute sont à peu près zéro. On parle de 13 000 personnes environ, entre 13 000 et 14 000 personnes qui regardent un match des Panthers de la Floride, à peu près 20 000 qui regardent un match des Coyotes de l'Arizona. NBC ne présente à peu près jamais de match de ces équipes-là. Et en plus de ça, son réseau NBCSN, qu'on va fermer à la fin de la prochaine saison, ne présente à peu près jamais. Par exemple, ces trois équipes-là, au cours d'une saison régulière, sur le réseau NBCSN. Arizona, c'est un ou deux matchs. La Floride, c'est un. La Caroline, c'est un. C'est ça, la moyenne. Donc, ces marchés-là n'ont pas d'importance, à mon avis, sur le contrat de télé américain. Il n'y a personne qui les regarde. Les gens qui regardent le hockey en Floride sont probablement des Québécois qui sont nos snowbirds à nous, qui sont là, qui vont regarder leur club, le Canadien ou autre, ou des gens du Nord qui passent une période l'hiver en Floride, qui vont regarder leur club favori, que ce soit les Rangers, les Bruins et les équipes du Nord. L'intérêt de garder Arizona, la Floride et ce genre d'équipe-là, parce qu'on essaie de nous faire croire que c'est des gros marchés télé, c'est de la foutaise. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, on colporte ça et pour essayer de justifier pourquoi on reste à des endroits comme Arizona, qui, encore une fois, mange des millions par année. Mais là encore, on va continuer à écouter cette excellente entrevue. J'adore Martin Leclerc, mais des fois, encore une fois, je vais le répéter, on va peut-être un peu trop vite ou on reste dans les clichés qu'on nous ramasse depuis des années sans avoir fait la vérification. Et lorsqu'on dit des choses comme ça, il faut être capable de les appuyer et de les faire de faire comprendre aux gens pourquoi on dit ça.
On a fait expansion à Las Vegas, il y a une autre équipe d'expansion qui s'en vient à Seattle, vraiment pour se retrouver avec un nombre, tu sais, que les équipes basées dans l'Ouest soient vraiment dans l'Ouest, qu'on ait des équipes dans tous les fuseaux horaires et que ça devienne attirant pour un télédiffuseur national de donner des milliards de dollars à chaque année. Alors c'est un investissement que la Ligue fait depuis 30 ans maintenant, ou près de 30 ans.
On arrive maintenant à l'expansion de Las Vegas en 2016, je vous le rappelle. Mais depuis 2000, jusqu'à 2016, il n'y a pas eu d'expansion dans la Ligue nationale. Les deux derniers, comme je le mentionnais un peu plus précédemment, Columbus, Minnesota. Entre-temps, on a perdu Atlanta, qui est parti pour Winnipeg en 2011. Gary Bettman finit par faire une expansion à Las Vegas en impliquant Québec, en se servant de Québec pour justement faire promouvoir et aller chercher 500 millions pour Vegas, en espérant avoir Seattle qui n'est pas là. Lorsqu'on nous parle de fuseau horaire, Vegas n'ajoute rien. Des clubs dans ce fuseau horaire-là, il y en avait plein. Des clubs dans l'Ouest, c'est pas Vegas. Vegas, on veut être là parce que Vegas n'a pas de club de ligue professionnelle. On veut être les premiers à s'installer. Bravo, c'est un beau succès depuis là. On nous parle de Seattle. Seattle ne dépose pas en même temps que Vegas. On doit attendre. Seattle, à ce que je sache, c'est pas mal au nord. C'est pas mal proche de Vancouver. C'est pas une question de contrat de télé. On veut avoir un club dans la région de Seattle. Ça fait longtemps qu'on y pense. Ce n'est pas en raison du contrat de télé. Bien sûr que Vegas et Seattle, dans la prochaine négociation du contrat de télé, vont sans doute aider. Mais est-ce que dans le plan de Gary, c'est ce plan de l'Ouest, ce plan du Sud, ce plan des clubs comme Arizona? Pourquoi on garde Arizona? Parce que le plan de Gary était d'avoir Vegas. Au contraire, l'arrivée de Vegas permet probablement de se débarrasser de Arizona. L'arrivée de Seattle, c'est parfait. Les gens à Seattle veulent avoir le retour de la NBA. C'est ça qu'on veut. Et lorsqu'on parle de couvrir tout le territoire, il faut regarder la carte de la NBA, la carte de la Ligue nationale, et vous allez voir qu'il y a une grosse portion des États-Unis, les plaines, où il n'y a pas d'équipe, autant de la NBA que de la Ligue nationale. Donc, on ne couvre pas cette partie-là des États-Unis. Oui, on veut des gros marchés, mais la Ligue nationale a besoin de marchés de hockey. Ça ne sert à rien d'aller dans des marchés qui ne sont pas propices au hockey. Et là, dans quelques instants, vous allez attendre la dividende d'être resté pendant 30 ans, d'avoir perdu 300 millions à peu près depuis l'aventure lors du déménagement des Jets en Arizona. Et il a un nom. Je vous laisse l'entendre.
Un des dividendes, c'est-tu Auston Matthews? Qui a grandi en Arizona, qui n'aurait peut-être pas été intéressé par le hockey.
Absolument. Et tu sais, au Texas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné dans plusieurs... Tu sais, le hockey en Floride, les gens disaient ça marchera jamais. Le hockey en Floride, ça à Tampa Bay, c'est une des organisations exemplaires dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a des... Et en Californie, tu sais, les Kings avaient été là, mais San Jose, c'est devenu très solide comme organisation aussi. Donc, c'est possible... De transplanter un nouveau sport dans un nouveau milieu et que cette organisation-là s'enracine et crée des choses. À Dallas, je me souviens, au milieu des années 2000, être allé faire un reportage là-bas, il y avait plus de jeunes joueurs de hockey dans la région de Dallas. Il y avait plus de joueurs de hockey mineurs qu'il y en avait sur l'île de Montréal.
Auston Matthews, un produit de l'Arizona. Auston Matthews, on nous dit, on nous raconte encore qu'il a pris le goût de jouer au hockey grâce à Daniel Brière et à Shane Doan. Vous savez que Daniel Brière, sa dernière saison qu'il a joué avec les Coyotes de l'Arizona, Auston Matthews avait 5 ans. Donc, c'est Daniel Brière. Shane Doan était là longtemps, on peut comprendre ça. Mais Auston Matthews a participé au tournoi Pee-Wee de Québec à l'âge de 11-12 ans avec une équipe de l'Ukraine parce que son instructeur était d'origine ukrainienne et que l'équipe de Kharkov qui s'amenait au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec avait demandé si il pouvait se joindre à la formation parce que sans ça, il n'aurait pas plus participer au tournoi Pee-Wee en raison qu'il n'y avait pas d'équipe en Arizona et qu'il ne pouvait pas évoluer dans un calibre assez intéressant pour pouvoir participer au tournoi Pee-Wee. La chance de jouer avec Kharkov lui a permis de participer au tournoi Pee-Wee. Par la suite, à l'âge de 15 ans, il est repêché dans la Ligue de hockey junior majeure de l'Ontario, de l'Ouest, donc avec Everett, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, il va préférer se joindre à l'équipe américaine des moins de 17 ans. Donc, il va faire son hockey mineur ailleurs qu'en Arizona, parce qu'on n'a pas la structure pour avoir Austin Matthews puis de l'amener au niveau où il est aujourd'hui. Par la suite, au lieu d'aller dans le junior, il va aller jouer en Suisse une année avant d'être repêché. Tu sais, l'histoire d'Austin Matthews, lorsqu'on nous dit qu'il est originaire et qu'il est un produit du hockey en Arizona, encore une fois, c'est un peu de la poudre aux yeux. Ça fait une belle histoire. On pourrait faire un beau film, mais je suis pas sûr qu'il serait extrêmement intéressant. Par la suite, on va nous dire que oui, c'est possible. En effet, c'est possible de s'installer dans certains marchés de l'Ouest, certains marchés du Sud, et que ça fonctionne. Sauf que, encore une fois, lorsqu'on nous parle de San Jose, lorsqu'on nous parle de Tampa Bay, lorsqu'on nous parle de ces équipes-là, il faut rappeler que ces équipes-là sont arrivées dans la Ligue nationale avant Gary Bettman. Ce n'est pas Gary Bettman, c'était pas dans le plan de Gary, il était pas là. Et lorsqu'on arrive avec la Floride, on parle de Tampa Bay. Ah ben gardons. Tampa Bay a eu ses problèmes. Maintenant, c'est une organisation qui a gagné la Coupe Stanley. C'est une organisation qui a plus d'allure. Mais est-ce qu'on nous parle des Panthers de la Floride? Est-ce qu'on nous parle des Coyotes de l'Arizona? Donc, après 30 ans, 25 ans et plus, on n'a pas été capable de s'installer avec ces équipes-là. Puis on nous dit que c'est encore possible de s'installer. On a perdu plus de 300 millions avec les Coyotes de l'Arizona. On va avoir perdu 400 millions avec les Panthers de la Floride. Mais non, il faut persévérer avec ces marchés-là. Ces marchés moribonds. Donc, si on veut le marché de la Floride, Tampa Bay est là, parfait. Arizona, Vegas n'est pas tellement loin. Il n'y a pas de problème à déménager ces équipes-là. Pourquoi on ne le dit pas? Non, on essaie de nous dire qu'un jour, ça va fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas. Et on le sait, après plus de 25 ans, si ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que ça va vous prendre pour comprendre que ça ne marchera jamais? Ce ne sont pas des marchés de hockey. C'est de très bons marchés. Il y a du monde, mais pas pour ça. Pour la NBA, pour du sport qu'on est habitué de voir dans le Sud, oui, mais pas pour le hockey. Mais on va toujours nous montrer l'exemple ou le seul club qui a fait une différence et que ça a réussi. N'oubliez jamais que les Sharks de San Jose ont failli déménager. Les Ducks d'Anaheim, ce n'est pas le Klondike présentement. Beaucoup de clubs du Sud, on ne pense pas à rouler sur l'or. Et pour terminer, lorsqu'on nous parle de Dallas, ce succès incommensurable pour le hockey. En 2017-2018, le nombre de joueurs de hockey mineurs au Texas atteignait pas 16 000 joueurs. Donc, lorsqu'on nous dit que dans la région de Dallas, il y avait plus de joueurs de hockey que sur l'île de Montréal, encore une fois, on tourne les coins assez ronds.
Alors, tu sais, ils ont, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné en Arizona, en tout cas, en termes de succès financier pour l'équipe professionnelle. Il y a du hockey mineur là-bas qui est bien structuré. Il y a plein de d'anciens joueurs des Coyotes qui s'occupent de hockey mineur, etc. Mais pour l'équipe, depuis 2008, donc on monte quoi, 13 ans en arrière. Il y a eu 5 propriétaires différents. Mm-hmm. Il y a eu 7 ou 8 propriétaires potentiels qui ont flirté avec l'idée d'acheter les Coyotes, qui ont soit été dont les projets ont soit été refusés ou qui se sont désistés à un moment donné. Et c'est une organisation qui saigne de l'argent constamment, qui a été, souvenez-vous, là, quand Jerry Moyes a fait faillite en 2008-2009, que Jim Balzilli voulait acheter l'équipe, ouais. Que la Ligue nationale avait repris l'équipe et opérait l'équipe comme propriétaire, et on avait forcé la ville de Glendale. La ville de Glendale était obligée de couper dans ses services d'incendie, de fermer des bibliothèques, des piscines municipales pour financer les Coyotes. C'était épouvantable.
Petite mise au point, ici, lorsqu'on parle de la ville de Glendale qui devait fermer des bibliothèques, qui n'était pas capable de payer ses pompiers, services d'incendie, en raison de l'argent qu'on donnait aux Coyotes, il faut comprendre que ça, c'était dans l'entente qu'on avait réussi à arracher à Glendale, où on payait autour de 15 millions les Coyotes pour administrer l'amphithéâtre de Glendale. Si on prend l'exemple avec Québec, on pourrait en reparler, parce que souvent on nous dit que nous payons pour l'administration du centre Vidéotron, ce qui n'est pas exactement le cas. Mais dans le cas de Glendale, c'était ça. Donc chaque année, on versait 15 à 17 millions en bel argent aux Coyotes pour qu'ils administrent et qu'ils rapportent à la ville. Mais comme le retour des Coyotes était toujours bien en deçà de ce qu'on versait, il y a même des moments où la ville perdait 10 millions pour une saison. On avait versé en trop pour les retours d'argent que les Coyotes mettaient dans les coffres de la ville. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a annulé cette entente-là. Vous vous rappellerez de tout le brouhaha qu'il y a eu à ce moment-là. Les gens de Glendale étaient des tout croches. Gary Bettman était furieux. Ils avaient même dit à ce moment-là que les Coyotes ne resteraient pas à Glendale et qu'il n'était pas question. Ils vont rester en Arizona, mais ça prend un nouvel amphithéâtre et Glendale n'est plus un endroit où ils veulent évoluer. Dans les dernières semaines, vous vous rappelez, on est à négocier peut-être un contrat à long terme. Alors finalement, on va peut-être rester à Glendale, mais avec tout ce qui sort présentement, est-ce qu'on veut de M. Meruelo et des gens, des Coyotes, encore à Glendale? En Arizona, je vois mal quelqu'un construire un nouvel amphithéâtre pour héberger les Coyotes. Mais sait-on jamais, les Coyotes, c'est un peu comme avec le Roadrunner. Et on dirait toujours qu'ils sont morts, mais finalement, c'est comme dans un bon dessin animé, ils survivent à chaque fois. Est-ce que ça changera? On verra. Écoutons maintenant Martin Leclerc nous parler de M. Meruelo, ce nouveau propriétaire, ce sauveur des Coyotes, un autre sauveur des Coyotes qui arrive pour nous dire que finalement, un jour, ça va fonctionner en Arizona.
Alors, donc, il y a un nouveau propriétaire qui est là depuis 2019, Alex Meruelo, qui est un entrepreneur d'origine cubaine, qui est devenu milliardaire, qui a acheté, je pense, sa première pizzeria il y avait 16 ans, qui a tourné ça en success story, qui s'est mis à investir dans les médias, je pense qu'il possède un casino maintenant, etc. Okay. Donc, il fait beaucoup d'argent, et il a acheté les Coyotes, et ce que le site Internet Athlétique a révélé hier, c'est une enquête de la journaliste Cathy Strang, qui est une très, très bonne journaliste, excellente consoeur, qui très pertinente, qui connaît bien le monde du hockey, que j'aime beaucoup lire, fait une enquête, a interrogé 50 personnes reliées de près ou de loin aux Coyotes, et a révélé qu'il y a une culture de travail, un climat de travail extrêmement toxique chez les Coyotes. Et on a vu des choses, on a vu des soubresauts de ça publiquement au cours de la dernière année. Souvenez-vous, le directeur général John Shaker, qui avait démissionné de son poste quelques jours avant le début des séries éliminatoires l'été dernier, parce qu'il convoitait un autre poste dans une autre organisation de la Ligue nationale. On voit jamais ça. Un directeur général disait, moi, je veux m'en aller ailleurs, je quitte mon poste. Mm-hmm. Et il y avait, parallèlement à ça, le président de l'organisation, Aaron Cohen, aussi, qui avait quitté son poste. Alors, on a vu ce qui se passait au sommet de la pyramide, mais dans la pyramide, jusqu'à la base, c'est un peu la même chose qui se passait. Il y a un climat toxique, il y a beaucoup de gens qui ont démissionné ou qui ont été congédiés chez les Coyotes, et ça, d'habitude, Et je l'ai vu dans une enquête que j'ai faite il y a pas longtemps sur Hockey Québec. Quand un pourcentage important d'employés qui quittent, qui courent vers la porte de sortie, habituellement, c'est la fumée qui annonce qu'il y a un incendie à l'intérieur qui fait rage. Alors, beaucoup de choses qui se passent chez les Coyotes.
Mentionnez à ce moment-ci que les Coyotes de l'Arizona ont été achetés par M. Meruello, payés selon Forbes 300 millions de dollars américains, et que c'est le prix des dettes. Donc, les dettes accumulées selon les chiffres de Forbes des Coyotes de l'Arizona se chiffrent à 300 millions avant la pandémie. Avec la pandémie, on dit que ça a augmenté. Le dernier rapport de Forbes dit que les Coyotes sont plus endettés que la valeur de l'équipe, donc plus de 300 millions sont dus ou devraient être payés pour compenser les pertes des Coyotes des dernières années. Je me fie à Forbes, je ne suis pas comptable, mais d'habitude, Forbes sont assez, en bon québécois, sont assez sur la coche lorsqu'on parle d'argent dans le sport professionnel.
Il y a une firme d'avocats qui est débarquée dans les bureaux des Coyotes pour poser des questions. Et ça, je soupçonne que c'est un recours qui est permis à l'association des joueurs quand on veut s'assurer que toutes les déclarations financières des équipes sont conformes. Là, tu sais, parce qu'on faut surveiller le partage des revenus. Si c'est 50-50, faut que tu sois convaincu que les déclarations de revenus sont conformes. Alors, c'est peut-être suite à une demande de l'Association des joueurs, mais il y a un bureau d'avocats de Chicago qui est débarqué dans les bureaux des Coyotes pour poser des questions aux employés sur des possibles irrégularités financières, sur la véracité des informations financières qui sont envoyées à la Ligue.
Sur cette possible visite des avocats de l'Association des joueurs dans les bureaux des Coyotes, je n'ai pas de détails, juste mentionner que les Coyotes, c'est cette équipe qui avait un malin plaisir à engager ou échanger pour avoir des contrats. On pense à Chris Pronger et bien d'autres, Marianossa, des contrats qu'on n'avait pas à payer, mais qu'on inclut dans le plafond salarial ou le plancher salarial, parce que les Coyotes sont très forts pour être au plancher, sinon plus bas. Mais de cette façon-là, on pouvait contourner la convention lorsqu'on parle de donner 50-50 aux joueurs. De cette façon-là, en contournant le plancher salarial, les joueurs recevaient moins d'argent, parce que vous comprendrez que les contrats des autres étaient un peu plus bas. Et de cette façon-là, les Coyotes affichait un plancher salarial inférieur à ce qui devait être selon la convention, donc moins d'argent pour les joueurs, et ça s'est perpétué ça pendant plusieurs années. D'ailleurs, plusieurs disaient que les Coyotes trichaient, ce ne serait pas la première fois, mais c'était la façon pour eux d'économiser des dollars, et au lieu de perdre 60 millions dans une année, ils pouvaient perdre 50 seulement.
Souvent, quand un article comme ça sort, ça crève l'abcès. Là, ça va forcer la Ligue peut-être à prendre action et tout ça. Mais quelle est la solution? De changer le propriétaire, d'essayer d'en trouver un autre? Il y en a eu 5 depuis 13 ans. Et le prochain qui va arriver, est-ce qu'il y a un homme d'affaires sérieux qui veut prendre une organisation qui perd 53 millions par année? Alors, ça semble être dans un cul-de-sac pas mal. Je vois pas comment ils peuvent se sortir.
Il y en a une sortie, puis elle est à Houston. Là. Oui. Les Stars, c'est probablement le club le plus solitaire de la Ligue, là, dans l'État du Texas. T'en parlais tantôt, ça s'est bien implanté d'ailleurs à Dallas. Et il y a les Arrows à Houston, mm-hmm. là, qui sont là. Il y a eu plusieurs époques d'ailleurs de hockey à Houston. Et ça, dans le marché de Houston, il y avait un article que j'ai retrouvé là, qui est sorti en novembre dernier, du site de hockeywriters.com, que les Stars adoraient avoir des rivaux dans leur état là, à Houston, là, parce qu'ils se sentent un peu seuls parfois dans le marché.
Ben, une grande rivalité, ça peut être un stimulant incroyable pour un sport.
Je lis ça, puis je me dis, tabarnouche, Jeff Molson dirait ça la même affaire.
Bon, la solution facile, Houston. Transférer les Coyotes de l'Arizona à Houston. Même si je pense que c'est une possibilité et que probablement c'est dans les plans, ou c'était dans les plans de la Ligue nationale, lorsqu'on a suivi le dossier et qu'on a écouté M. Tillman Fertitta, qui est le propriétaire des Rockets, de l'équipe de la NBA, lui doute du marché de Houston pour le hockey. Et en passant, les Aeros de Houston, de la Ligue américaine, ne jouent plus à Houston depuis 2013. Donc, lorsqu'on dit que les Aeros jouent là présentement, encore une fois, un peu de rigueur, comme dirait l'autre. Mais bon, Houston est un gros marché. Encore une fois, on parle de gros marché. Mais comme je le disais, Tillman Fertitta n'y croit pas. Pas au prix qu'on semble vouloir lui demander pour amener une équipe de la Ligue nationale à Houston, dans son aréna. Attention, là. Et encore une fois, ça, c'est avant la pandémie. Maintenant, comme M. Fertitta est dans un marché de restauration, marché d'hôtel, c'est sûr que financièrement, pour lui, c'est encore plus difficile maintenant. Il voulait pas perdre d'argent avant parce qu'il trouvait qu'un club de la Ligue nationale, c'était trop risqué. Et oui, il est intéressé à avoir un club de la Ligue nationale, mais à quel prix? Encore là, avant d'avancer que Houston est l'endroit parfait pour amener les Coyotes de l'Arizona, il faut faire quelques vérifications. Encore une fois, certains de nos bons journalistes, experts, vont nous dire que c'est fait, Houston, tout le monde les veut là-bas. Attention, ce n'est pas le cas. Et même Gary Bettman l'a avoué, en premier lieu, il faudrait avoir un propriétaire intéressé pour avoir une équipe à Houston. Et comme l'aréna appartient à Tillman Fertitta, ça va passer par Tillman Fertitta si jamais Houston a une équipe. Et lorsqu'on parle de rivalité extraordinaire entre Dallas et une équipe à Houston, mon Dieu, prenons notre gaz égal. Une équipe, les Coyotes de l'Arizona qui arrivent à Houston, on ne créera pas une rivalité avec les Stars de Dallas juste parce qu'ils sont prêts ou un peu plus près l'un de l'autre. Si les Stars de Dallas n'ont pas réussi à se trouver de rivalité depuis qu'ils sont à Dallas, c'est pas une équipe à Houston qui va créer cette réalité, cette rivalité-là. Les Panthers de la Floride sont très près du Lightning de Tampa Bay et il n'y a pas de rivalité. Ce n'est pas automatique, une rivalité. Une rivalité, ça se crée chez les partisans. C'est les partisans qui font la rivalité. Ce n'est plus les joueurs sur la patinoire qui sont des PME, qui sont eux autres, peut-être vont jouer avec l'adversaire, on va être échangé, on va signer un contrat comme agent libre. Ce n'est plus les années 90 où la rivalité canadien-nordique, c'était viscéral. Oui, ça reste viscéral, mais chez les partisans, pas chez les joueurs. Plus maintenant. Les partisans, si tu n'as pas de partisans, tu ne peux pas avoir de rivalité. La rivalité entre les Blackhawks de Chicago et les Red Wings de Détroit ou les Bruins de Boston avec le Canadien, ce ne sont pas les joueurs sur la patinoire. Pensez-vous que Patrice Bergeron, lorsqu'il s'amène à Montréal, a fait des boutons et se dit « Oh mon Dieu, je vais arracher la tête à tout le monde en face de moi. » Non, mais les partisans, par exemple, les fans, comme il y a beaucoup de fans des Bruins, il y a beaucoup de fans des Canadiens, là, tu vas créer une rivalité, et pas nécessairement parce que tu es extrêmement proche, mais jamais vous n'aurez une rivalité comme Québec et Montréal. Même le retour des Nordiques va créer une rivalité chez les fans, parce qu'il y en a des deux côtés, et que ça devient une maladie, ce qui n'est pas le cas entre un partisan des Coyotes de l'Arizona et un partisan de Las Vegas maintenant. Il n'y a pas ça. Il n'y a même pas de rivalité entre les Ducks d'Anaheim et les Kings de Los Angeles. Arrêtez de nous faire croire que parce que géographiquement sont près, on crée automatiquement une rivalité. Ce n'est pas le cas. Les rivalités, ça se crée entre les partisans et par des séries éliminatoires, par des affrontements entre les deux équipes, mais surtout par le passé, par l'histoire, pas ce qu'on a actuellement avec le hockey d'aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. Les joueurs ont évolué. Les gens ont évolué aussi. Mais le vrai fan de hockey restera toujours un fan de hockey. Mais pour ça, il faut que tu en aies.
Ben, ils l'ont déjà vécu à Montréal.
Oui.
Et on en parle encore aujourd'hui, puis on trouve que c'était des années extraordinaires. Je suis d'accord avec toi que si la Ligue cherche à déménager les Coyotes qui vont regarder dans l'Ouest pour garder deux conférences équilibrées, c'est très important. Si on parlait du plan de Gary Bettman de répartir les équipes sur l'ensemble du territoire, et Houston, c'est un grand marché télévisuel aussi, il y a beaucoup de population là-bas.
Mais regardez la carte de la LNH, là, où sont les franchises. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, oui, on dans notre tête, on voit le Texas dans l'Ouest, là, mais c'est pas mal central.
Centrale aussi.
Centrale Sud. Et donc, c'était aussi proche du Lightning que t'es proche des Golden Knights. Là.
Mm-hmm. Ben, en ce moment, les Stars jouent dans la même division que le Lightning.
Ouais, absolument. Moi, je me trompe. Oui, mm-hmm. Tout à fait. Donc d'avoir dans ce grand État, le plus grand État en termes de superficie aux États-Unis, très populeux d'ailleurs, d'avoir un deuxième club, ce serait logique.
Oui. C'est toujours la course, la recherche de grands marchés télévisuels, et Phoenix en est un. C'est pour ça que on maintient l'équipe dans cette région-là. Mais...
Et voilà, on revient avec les grands marchés télévisuels. Arizona est un grand marché télévisuel, probablement. Houston, assurément. Beaucoup de gens, beaucoup de population, beaucoup de téléviseurs, mais... Et est-ce que ces téléviseurs-là sont syntonisés au hockey? Non? Il faut arrêter de colporter ou de dire des choses comme ça. Si moi, à la télé, on me présente le soccer, les amateurs de soccer, ne vous fâchez pas, mais si on me présente le soccer, probablement ma télé ne sera pas tournée là. Si on me présente, même si on a un bon marché télévisuel, si on me présente du boulingrin, je ne regarderai pas. Ben pour la personne à Houston, pour la personne en Arizona, vous pouvez être plusieurs, mais ils ne regardent pas le hockey. Ça ne les intéresse pas. Donc, je prends souvent mon exemple de restaurant de viande, de burger, dans un marché de végétariens. Tu peux avoir 3 millions de population, mais si sur ces 3 millions de population-là, 2 millions 8 sont des végétariens, t'as beau installer un kiosque de burger, ça, il s'en vendra pas. T'es mieux d'installer ton restaurant de burger dans un marché de 1 million de personnes, mais qu'il y a 800 000 mangeurs de viande. C'est la réalité, ça se calcule pas à la population. Le fait qu'il va avoir des cotes d'écoute, on en a une excellente preuve avec le hockey du côté des États-Unis. Pour un match national sur NBC, on va toucher moins de 2 millions de téléspectateurs. Alors qu'un match du samedi soir du Canadien va tirer 800 000 personnes juste chez les francophones. Il faut arrêter de croire que parce qu'il y a du monde, il va avoir des cotes d'écoute. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La lutte fait 2 millions, 3 millions aux États-Unis un lundi soir. Mais le hockey va faire 300, 400 000. Au Québec, la lutte va faire 50 000 personnes. Mais c'est juste pas la population qui dicte les codes d'écoute. C'est le spectacle, le sport. Les gens qui n'ont jamais joué au hockey, qui ne connaissent pas le hockey, avant de les amener à s'asseoir devant un téléviseur pour regarder un match de hockey, vous avez du chemin à faire. Parce que le match de hockey, nous on connaît ça. Le match de hockey à la télé est peut-être le sport qui est le moins, en guillemets, télévisuel. On se comprend. Le baseball, le basketball, le football, on peut suivre toute l'action. C'est des sports qui sont beaucoup plus lents. Le hockey, c'est pas le cas. On n'a pas la sensation de vitesse comme d'être sur place pour voir du hockey. Et ça sera toujours difficile dans le sud des États-Unis de faire accepter et de faire aimer ce sport-là aux Américains.
À un moment donné, si ça devient invivable, il va falloir prendre la grande décision puis les les faire bouger. Oui, et là, plus le temps passe, plus c'est constamment une concession à problème pour la Ligue nationale. Il va falloir à un moment donné prendre la décision de régler ça une fois pour toutes et d'aller de l'avant là. Et tu sais, il y a un partage des revenus 50-50 avec les joueurs. S'il y a une concession qui est toujours en déficit et qui apporte pas de revenus, qui contribue pas à la caisse, à un moment donné, les joueurs vont avoir ont leur mot à dire dans ça aussi, de dire écoute, on déménage ça dans un endroit qui va être profitable, faire en sorte qu'on a que autant les propriétaires que les joueurs en bénéficient. Mais pour l'instant, c'est un boulet financier et c'est un trou sans fond.
Donc, les Coyotes à Houston, les Sénateurs à Québec?
Alors que Martin Leclerc explique très bien la situation en disant que des équipes comme les Coyotes qui perdent continuellement de l'argent depuis des années, depuis 25 ans, devront, à un moment donné, on va devoir prendre une décision de les envoyer dans des endroits rentables. L'animateur va nous dire Arizona à Houston, Ottawa à Québec. Ça, c'est la mentalité très québécoise. Les Coyotes de l'Arizona à Houston, oui, mais les Panthers de la Floride à Québec, pas les Sénateurs d'Ottawa. On vient d'expliquer qu'on a besoin d'équipes rentables. On a besoin d'équipes qui vont participer à la cagnotte. C'est le cas des Sénateurs d'Ottawa. Depuis leur entrée dans la Ligue nationale, les Sénateurs d'Ottawa font de l'argent. C'est une équipe rentable. Ah, dans les dernières années, ça a été un peu moins rentable. Oui, c'est correct. Ils ont des problèmes, il y a des gens qui vont pas à l'aréna. On comprend ça. Toutes les équipes, les Blackhawks de Chicago, même le Canadien est passé par là. Les Sénateurs vivent ça. Mais la base de fans est là, les Sénateurs. Le contrat de télé des Sénateurs d'Ottawa, c'est 30 millions par année. Ça, c'est le contrat local. Les Coyotes de l'Arizona, les Panthers de la Floride, c'est des contrats qui n'atteignent pas 10 millions par année. Ou plutôt, peut-être 10 millions par année en revenus. Il n'y a pas de monde dans les gradins. Et depuis 2001, selon Forbes, ces équipes-là ont perdu plus de 150 millions de dollars US. Aucune année rentable où ils ont fait de l'argent depuis 2001, parce qu'on n'a pas les statistiques avant 2001 par Forbes, mais on ne fait pas d'argent au moins à ces deux endroits-là, incluez là-dedans la Caroline et d'autres formations qui ont de sérieux problèmes financiers, mais on nous dit toujours que ça va bien. Alors, de dire que les Sénateurs d'Ottawa, qui, eux, depuis 2001, ont dû faire autour de 85 millions de profits, pas de revenus, des profits, de l'argent dans les poches. Donc, on prendrait une équipe rentable, comme les Sénateurs d'Ottawa, on conserverait une équipe déficitaire depuis toujours, comme les Panthers de la Floride. Voyons donc! Il n'y a pas de logique dans ce commentaire-là. Les Sénateurs d'Ottawa sont une équipe canadienne qui est rentable, qui a des cotes d'écoute, qui a des fans. Arrêtez de nous ramener les Sénateurs d'Ottawa. Dites-le, il y a deux équipes en Floride, il y en a une de trop, pas viable. Il y a une équipe en Arizona, il y a une équipe en Caroline. Il y a des équipes qui patauge dans les déficits depuis toujours. De grâce, les Sénateurs d'Ottawa ne sont pas... Il n'y a aucune raison que cette équipe-là déménage à Québec. Et l'autre chose, le but, c'est probablement d'avoir 8 équipes canadiennes pour avoir des divisions un peu plus équilibrées. Lorsqu'on parle des divisions l'Ouest, l'Est, Dallas joue dans l'Est cette année. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas plus loin de Tampa Bay qu'ils sont loin de Vegas ou d'Arizona. Parce que oui, il y a le décalage horaire, mais de prendre Arizona puis de les envoyer à Québec pour plus tard prendre la Floride et l'envoyer à Houston, ça change rien. Il y a une équipe comme Columbus qui pourrait aller jouer dans la centrale. Parce que, de toute façon, eux aussi n'ont pas nécessairement beaucoup de fans. Donc, on ne fâchera pas grand monde à bouger certaines équipes de conférence. Le mieux, c'est sûr que le scénario parfait, c'est de prendre Arizona, de l'envoyer à Houston, et de prendre la Floride, de l'envoyer à Québec. Arrêtez-moi le transfert des sénateurs d'Ottawa. Voyons donc. Il faut pas juste pas savoir compter pour dire qu'on va prendre une équipe d'Ottawa et on va l'envoyer à Québec. Imaginez-vous, et même ceux qui nous disent que M. Molson ne veut pas d'équipe à Québec, donc on va prendre une équipe à Ottawa pour l'amener à Québec. Voyons donc, c'est du gros n'importe quoi. Comme c'est du gros n'importe quoi, lorsqu'on pense que M. Molson n'est pas en faveur du retour des Nordiques. On pourra en parler, mais encore une fois, on va vous dire que le monopole, ça n'existe pas, le monopole dans la Ligue nationale maintenant. Ça n'existe pas. Le Canadien profiterait de rentrées d'argent beaucoup plus importantes avec une équipe à Québec que d'avoir une équipe en Floride.